Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans RTL Midi, 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Pas question de démissionner, même si la pression judiciaire s'accentue sur Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux le répète à l'envi, il restera à son poste jusqu'au bout. Julien Bayou lui riposte, il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme, tacle l'ancien patron des Verts accusé par Sandrine Rousseau de violence psychologique contre son ex-compagne. Les Verts qui se déchirent autour des questions féministes. On y reviendra à 12h40 avec la députée d'Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. Grève chez Dior, les ouvriers du géant du luxe réclament une meilleure redistribution des richesses. Cherche chauffeur de bus désespérément, 1800 postes à pourvoir à la RATP. Mais comment expliquer ça? Pourquoi les candidats ne se pressent pas? On en parle juste après le journal. Et puis l'OM en Ligue des Champions ce soir sans public face au Sporting Portugal, mais avec l'espoir d'une première victoire.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part pour la Moselle parce qu'en France on n'a pas de pétrole Pascal, mais on a des betteraves, beaucoup de betteraves même. Et vous verrez que c'est loin d'être anodin. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Quotidien étudiant aujourd'hui, alors que rentrée rime avec précarité pour beaucoup, on fait le point sur les aides qui existent, aides qui ne sont pas toujours réclamées. Juste avant 13h, LVT midi, aujourd'hui on parle mode avec l'incontournable, le must-have de l'automne, Pascal.
Le col roulé.
Évidemment, ce sera avec Monique Younes.
Bien évidemment.
La question du jour sur RTL.fr, portez-vous un masque dans les transports en commun?
Non. Pour le moment, non. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. On pourra également revenir sur cette phrase « Mangez vos morts » de Daniel Obono, la députée de la France Insoumise. La contre-attaque de Julien Bayou, bien évidemment. La ville de Paris qui n'autorisera pas les grands écrans. Et puis, on souhaitera un anniversaire à Julien Clerc. Il a 75 ans.
Avant ça, la météo avec vous d'un mot, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Soleil et douceur.
Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Les oppositions mettent la pression sur l'exécutif au lendemain des mises en cause d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux.
Le premier, Alexis Kohler, vous l'avez dit, secrétaire général de l'Élysée, est mis en examen pour conflit d'intérêts en raison de ses liens familiaux avec les dirigeants de l'armateur MSC. Le second, le premier garde des Sceaux en exercice, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêts. Ses avocats ont déposé un pourvoi en cassation. Et d'ici là, Éric Dupond-Moretti n'a pas l'intention de quitter son poste, il l'a dit et répété ce matin.
Ça n'est pas à l'ordre du jour. Je tiens ma légitimité du président de la République et de la Première ministre et que la Première ministre a réaffirmé hier toute la confiance qu'elle me portait. Jamais cette mise en examen ou ce renvoi n'ont entravé mon travail. Pour le reste, soyez patients, un pourvoi en cassation a été formé et s'il fallait que je sois jugé, je dirai alors ce que j'ai à dire. Je suis un justiciable comme un autre, j'ai un certain nombre de droits et vous pourrez alors compter sur moi pour me défendre et pour que j'assure complètement les droits et la défense qui sont les miens.
Éric Dupond-Moretti au micro RTL de Julie Brault.
Alors s'il y a un procès, ça voudrait dire qu'il pourrait être jugé en tant que garde des Sceaux, ce qui est une situation quand même qui est assez particulière.
Julien Bayou, lui, contre-attaque l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts accusé de violence psychologique contre son ex-compagne par Sandrine Rousseau, estime que sa collègue députée est allée trop loin dans les colonnes du Monde. Julien Bayou conteste les accusations. Il estime qu'il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme. On y revient longuement après le journal de midi et demi. On sera avec la députée d'Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. Gérald Darmanin, lui, reporte sa visite en Corse prévue après-demain, report de quelques semaines. Le ministre de l'Intérieur estime en effet que les conditions d'un débat serein avec les maires sur les politiques publiques ne sont pas réunies.
Grève chez Dior, les salariés du groupe LVMH réclament de meilleurs salaires.
Et ils ont installé un piquet de grève devant leur site de Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans, site dans lequel sont produits des parfums, une mobilisation rare dans le secteur, Anaïs Bouissou, pour réclamer, on l'a dit, de meilleurs salaires.
Oui, ça n'était pas arrivé depuis 8 ans d'après Force Ouvrière. 300 salariés en grève sur les 2500 que compte le site. Ils demandent des hausses de salaire dignes pour tenir face à l'inflation. Et le problème, c'est que l'augmentation qu'ils ont obtenue en début d'année, plus 3,3%, a à peine été négociée et appliquée, qu'elle est périmée, surpassée par le prix de la vie. C'est une demande de plus en plus fréquente dans les entreprises, retourner à la table des négociations une deuxième fois dès cette année, sans attendre 2023. Mais chez Dior, au-delà du pouvoir d'achat, s'ajoute le sentiment d'injustice des salariés. Ils dénoncent les bénéfices records du propriétaire de parfums Dior, le groupe de luxe LVMH, 6,5 milliards d'euros rien que sur les 6 premiers mois de l'année. Alors les représentants syndicaux le disent et l'écrivent sur les tracts distribués au personnel, il est temps de partager les richesses avec de vraies augmentations visibles sur la feuille de paye.
Et je le rappelle, à chaque fois, les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation, ce qui fait que lorsque l'inflation est forte, il y a une perte de pouvoir d'achat pour tous les salariés de France.
Ça fait partie des négociations annuelles dans les entreprises.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Les États-Unis veulent répondre de façon robuste à la Corée du Nord après le tir de missile de Pyongyang, ce missile balistique qui a survolé le Japon la nuit dernière. Le système d'alerte a été activé. La population japonaise a même dû se mettre à l'abri. Et puis le prix Nobel de physique décerné ce midi à un trio franco-austro-américain. Parmi ce trio, donc, on compte le français Alain Aspect. Ces trois hommes sont des pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique. Voilà, je n'ai pas tous les détails parce que je ne suis pas sûre de tout comprendre.
Non, mais c'est la semaine des prix Nobel. C'est la semaine des prix Nobel et le bruit courait que Michel Houellebecq pourrait obtenir le prix Nobel de littérature, ce qui serait un événement.
Ce sera vendredi, je crois.
Le football, c'est sans supporters, mais avec beaucoup de pression que l'OM retrouve ce soir la Ligue des Champions.
Un match à huis clos, effectivement, à 18h45 au Vélodrome face au Sporting Portugal. L'OM sanctionné après les incidents survenus face à Francfort, qui devra donc se surpasser dans un stade vide. Se surpasser, Hugo Hamelin, parce que jusque-là, le compteur des Marseillais en Ligue des Champions reste désespérément vide.
Ouais, deux défaites en deux matchs, trois buts encaissés, aucun inscrit. C'est vrai, l'Olympique de Marseille a plus fait parler en dehors que sur les terrains dans cette Ligue des Champions, avec ses feux d'artifice tirés à l'horizontale sur les supporters adverses lors de la dernière rencontre, qui est la principale raison de ce huis clos. Ça contrarie la direction de l'OM, ça contrarie également la grande majorité des supporters de l'OM qui sont privés de match ce soir un petit peu injustement.
Je pense que bon, le huis clos, c'est justifié. Parce qu'à un moment donné, bon, on est en Ligue des Champions, donc il faut pas s'emporter comme on s'emporte. On joue contre des équipes qui ont aussi des supporters assez chauds. Et derrière, il faut qu'on sache rester supporter et pas répondre aux provocations, etc. Et puis après, au niveau du jeu, je pense que ça va pas jouer. Ça va pas jouer sur l'équipe, parce qu'en ce moment, on est sur une bonne dynamique en Ligue 1. Et je pense qu'en Ligue des Champions, là, ce soir, ça va être le déclic de gagner et derrière d'enchaîner.
Le déclic au milieu du silence, les supporters marseillais qui acceptent bien la punition collective, donc vous venez de l'entendre. Le huis clos, c'est un manque à gagner de 3 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille, selon l'équipe. Donc les Olympiens seront seuls ce soir face à leur destin, comme le titre solennellement le journal La Provence ce matin.
Merci Hugo Hamelin. Et l'OM face au Sporting Portugal, ce sera à vivre évidemment en fil rouge dans RTL Soir. Juste un petit mot Pascal, parce qu'on n'est pas des Nobel du calendrier. Je vous ai dit vendredi, c'est jeudi le Nobel de littérature, pardon.
Qu'on attend avec impatience.
La météo pour cet après-midi, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. C'est pas mal.
Ben oui, c'est pas mal, c'est même très beau, quasiment partout en plus, hein, Céline. Avec quelques nuances tout de même, c'est vrai qu'il y a des grisailles persistantes localement vers la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire, la Lorraine, le Pays Basque. En revanche, c'est très nuageux entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Le tout sous des températures qui remontent bien cet après-midi, parce qu'il faisait frais quand même hein, ce matin par endroits. De 18 à Cherbourg, à 27 à Auch, 26 à Bordeaux, Nîmes, Ajaccio et Toulouse, 24 degrés cet après-midi à Marseille et Grenoble, 22 à Nantes, 21 à Paris, 20 à Lille et Nancy.
Merci beaucoup Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous et peut-être êtes-vous en train de déjeuner et pourquoi pas de manger des betteraves.
C'est un bon teasing puisqu'on part aujourd'hui à Saint-Avold en Moselle retrouver Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Saint-Avold où l'usine Afiren a décidé d'utiliser la betterave dont parlait Pascal, la betterave pour remplacer le pétrole dans les produits cosmétiques et alimentaires.
Exactement. Et ce que vous venez de décrire en 7 secondes, ça a pris 10 ans de recherche et de mise au point à Jérémy Pessot, qui est chimiste et cofondateur d'Afiren, cette usine toute nouvelle, usine qui fonctionne avec des ingrédients de départ entièrement naturels venus de la transformation des betteraves.
Donc les pulpes de betterave, c'est un petit peu comme des chips, donc c'est solide. Et les mélasses de betterave, vous voyez, ça ressemble un petit peu à du caramel. C'est finalement le résidu du process sucrier quand les sucriers n'arrivent plus à tirer de sucre blanc. Donc ils tirent le sucre blanc tout ce qu'ils peuvent, et ça c'est le fond des cuves. On va mettre tout ça dans les gros fermenteurs que vous voyez derrière vous, en présence de nos micro-organismes, qui sont des micro-organismes naturels, donc pas génétiquement modifiés. Et ils vont consommer ces matières premières pour en faire des acides organiques. 7 acides avec un seul procédé. D'habitude, dans le pétrole, parce que ces acides sont faits d'habitude à partir de pétrole, il faut 7 usines ou 7 procédés différents. Et ici, vous les avez en un seul.
Voilà, c'est le principe même de la méthanisation, mais que vous voyez, le côté révolutionnaire, Saint-Avold va produire 16 000 tonnes de ces acides chaque année en divisant par 5 les émissions de CO2 par rapport aux produits équivalents sur le marché.
Mais Samuel, que sont ces acides dont vous nous parlez ?
Ah oui, ça fait un peu peur comme ça. Il y en a 7 qui se présentent sous forme de liquide transparent, légèrement visqueux. Le mieux, c'est encore de laisser Jérémy Pesseau les détailler.
Donc on a l'acide acétique, le propionique, le butyrique, le valérique et l'hexanoïque. Et on a aussi 2 isomères, c'est pour ça qu'on en a 7, l'isovalérique et l'isobutyrique. Par exemple, l'acide acétique, c'est la molécule présente dans le vinaigre. Vous savez, l'odeur ou le goût du vinaigre, c'est l'acide acétique. L'acide propionique, c'est un conservateur alimentaire qu'on retrouve aussi dans le tractus des ruminants. Donc c'est l'acide butyrique, c'est pareil, c'est contenu dans le beurre. Mais d'habitude, c'est fait à partir de pétrole.
Et voilà, on va retrouver ces produits dans les chips, le shampoing, les montures de lunettes, etc. etc.
Ça fait beaucoup de hic quand même, Samuel. Samuel, l'usine se proclame verte, est-ce qu'elle peut vraiment y prétendre ?
Alors, il faut avouer que tout le principe est remarquable. Matière première, non alimentaire et naturelle. On produit 4 millions de tonnes de mélasse de betterave chaque année en Europe. Transformation naturelle. L'usine va même produire 23 000 tonnes d'engrais par an, le reste du processus de fermentation. Elle n'utilise pas d'eau, zéro goutte d'eau. La seule eau consommée est celle présente dans la mélasse de betterave. Donc, l'usine va même en produire, finalement, en excédent. Alors, tout n'est pas parfait parce que la matière première circule principalement par camion, par exemple, mais on économise 30 000 tonnes de CO2 par an. J'y allais avec précaution. J'avoue que je suis ressorti très impressionné par cette usine toute neuve et unique au monde.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt et vive la betterave.
Et vous le savez, chaque jour on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. Pourquoi la région parisienne a-t-elle du mal à trouver des chauffeurs de bus ? Il manquerait 1800 postes de chauffeurs de bus à la RATP. Eh bien, on va en parler dans une seconde.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Je me vois pas, moi, aller voir certaines personnes que je connaisse, des amis, pour les envoyer dans un bourbier. Je connais des gens qui, au bout de 2 mois de travail, ont fait un abandon de poste carrément. Quand ils ont vu le salaire qui a été viré sur leur compte, en tant que chauffeur de bus, ils ont démissionné.
Témoignage d'un chauffeur de bus ce matin à Bagnolet, illustration de ce manque criant de chauffeurs en région parisienne et de la galère qu'il entraîne chez les usagers. Vous nous l'avez fait vivre toute la matinée sur RTL. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour.
À vos côtés, Martial You, chef du service économie et sociale d'RTL. Bonjour.
Bonjour.
On l'a dit, 1800 postes de chauffeurs de bus sont vacants en région parisienne. 1800. D'abord, Alexandre, comment on peut expliquer un tel chiffre ? Que vous disent ceux qui ont accepté le poste et que vous avez rencontré ce matin ?
Alors, la première chose dont il me parle, c'est évidemment la rémunération. Ceux qui sont à la RATP depuis longtemps, une quinzaine d'années de service, par exemple, ils sont à peu près à 2000 euros par mois. Ceux qui viennent d'être embauchés...
2000 euros net ou brut ?
2000 euros net. 2000 euros net. Pour ceux qui...
Multiplié par 12 ?
Multiplié par 12, oui.
Sans prime et sans 13e mois.
Si, le prime et le 13e mois, c'est compris. Tout compris, ça fait 2000 euros à peu près par mois. Ceux qui viennent d'être embauchés, ceux qui commencent aujourd'hui comme chauffeurs de bus, eux, ils sont engagés à 1800 euros brut. Donc ça fait entre 1400 et 1500 euros net. Les syndicats réclament 200 euros d'augmentation, notamment pour compenser l'augmentation du coût de la vie.
Ça, c'est le salaire. C'est aussi un métier qui a beaucoup de contraintes.
Oui, d'abord en termes d'horaire. Ils changent souvent. Ça veut dire se lever à 3h30 du matin, la semaine suivante travailler la nuit, se coucher donc à l'heure à laquelle on se levait la semaine précédente, et puis ensuite se réveiller encore à 3h30 du matin la semaine d'après, c'est un exemple. Il faut aussi composer avec des usagers qui sont de plus en plus mécontents, 15 minutes d'attente, 30 minutes d'attente à l'arrêt de bus parfois s'ils n'arrivent pas à monter dans le premier bus, parce qu'il n'y a pas de place, le bus est complet, et ça c'est la conséquence directe de cette pénurie de chauffeurs, parce qu'il y a forcément moins de bus. En conséquence, depuis la rentrée, on demande aux chauffeurs de la RATP de travailler un peu plus longtemps, chaque jour, parfois aussi sur leur jour de repos. Les conducteurs me disent aussi que la RATP réfléchit actuellement à leur supprimer 6 jours de vacances par an pour faire face à la pénurie de chauffeurs, des conditions de travail qui se dégradent, et ça rend forcément le métier moins attractif.
Vous étiez sur le terrain ce matin, est-ce que vous avez senti une peur des chauffeurs qui pensent qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur travail ?
Non, pas spécialement. Ils se plaignent vraiment de leur rémunération. Ils me parlent pas vraiment d'insécurité. Ils sentent que les gens sont tendus, ils sont en colère parce qu'il y a beaucoup de retard. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais ils le comprennent bien, les chauffeurs. Ils disent que c'est pas de leur responsabilité.
Chauffeur de bus, c'est pas le seul métier en tension. Martial You, il y a d'autres professions qui ont beaucoup de mal à recruter actuellement.
Ah bah oui, parce que depuis l'an dernier, vous avez 7 métiers sur 10 qui sont en forte tension. Hein. Ça veut dire que tout le monde, en fait, a du mal à recruter en ce moment. C'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis 2011. Et c'est la DARES, qui est l'organisme de statistiques du ministère du Travail, qui le dit. Dans les 12 mois qui viennent, Adecco annonce 4,5 millions de postes d'offres d'emploi, mais on sait déjà qu'elles ne seront pas pourvues pour la plupart. Il y a des secteurs plus tendus que d'autres, hein, l'hôtellerie-restauration, 500 000 postes de serveurs ou de cuisiniers dans les mois qui viennent à pourvoir. Vous avez préparateur de commandes dans les entrepôts de e-commerce, pareil, c'est à peu près 200 000 offres. Chauffeur poids lourd, BTP, technicien informatique, télécommunication. En fait, un quart des offres d'emploi actuellement sur le marché se concentrent sur 20 métiers. C'est vous dire à quel point c'est difficile pour certains jobs. Donc vous avez des secteurs où il suffit de pousser la porte pour trouver un emploi, quoi.
Et en même temps, Martial, on nous dit qu'il n'y a plus de chômage. Mais alors, où sont passés les gens?
Ah, mais ça, c'est... Alors, c'est-à-dire qu'il y a un mot que j'adore. Je vais pouvoir le placer, c'est pas tous les jours. À la mi-journée, en plus, à l'heure du repas. C'est le chômage frictionnel. Nous sommes face à du chômage frictionnel.
Frictionnel ou frictionnel?
Frictionnel.
Frictionnel, je vois ce que c'est.
Oui,
mais
Alors, frictionnel, ça veut dire que c'est cet espace entre le moment où vous perdez un emploi, un premier, et celui où vous en retrouvez un. Ce qui reste. Et en ce moment, vous avez un phénomène particulier, c'est que vous avez de nombreux Français qui délaissent leur CDI. Vous avez 1 million de Français qui, depuis le début de l'année, ont lâché leur CDI, parfois pour recréer leur propre job, parfois pour un CDD, parfois pour aller dans l'intérim parce qu'ils ne veulent pas d'un CDD. Et puis, il y a donc cette période plus ou moins longue avant de retrouver un emploi. Et c'est d'autant plus facile en ce moment que vous avez un marché très dynamique. Et la quasi-certitude,
c'est ce que vous voulez dire.
C'est-à-dire que ça crée une période d'instabilité. Ils n'ont pas disparu, ils ont juste fait une pause quelque part.
Mais pourquoi frictionnel?
C'est comme ça. Non, je ne l'ai pas inventé, c'est le terme technique.
D'accord. Bon, écoutez, c'est intéressant. Vous savez que dans un instant, on va parler d'RTL Votre Vie. Vous avez été étudiant?
Oui.
Vous aviez des aides quand vous étiez étudiant à l'époque? Non, vous faisiez des petits boulots comme tout le monde.
Je faisais des petits boulots, puis aujourd'hui, il y a des aides. Chez papa-maman.
Voilà.
Il y avait déjà les bourses quand même, Pascal.
Bien sûr, il y avait sans doute les bourses, mais il y avait aussi la possibilité pour les étudiants, ce qui n'est pas forcément un drame, de faire un petit boulot, de se familiariser avec la vie professionnelle. Eh bien, on va en parler dans une seconde. Merci Nicolas, et merci Alexandre, et merci évidemment à Martial.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
C'est le midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
je suis alternante, je touche 880 euros, 650 euros de loyer avec les charges. Ah ouais, j'ai presque plus rien. En fait, je m'attendais pas du tout que ça soit aussi dur que ça, même si je travaille, mais je n'y arrive pas.
Presque 3 millions d'étudiants en France cette année, 25 000 de plus que pour la rentrée précédente. Et une vraie difficulté pour beaucoup, difficulté accrue par l'inflation. Comment boucler ces fins de mois? Des aides, heureusement, existent. Alors pour faire le point, on retrouve notre spécialiste éducation ici à RTL. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
D'abord, combien ça coûte aujourd'hui d'être étudiant en France?
Alors chaque année, la FAGE, l'organisation étudiante, la principale, fait le calcul moyen. On prend un étudiant à l'université qui n'habite plus chez ses parents. Il y a d'abord les frais spécifiques à la rentrée. Alors cette année, 1307 euros. Il y a l'inscription, la cotisation, la contribution de vie étudiante, une assurance pour le logement, une complémentaire santé, puis du matériel pour travailler. Et puis ensuite, eh bien, chaque mois, il y a les frais de la vie courante. Alors cette année, le calcul de la FAGE, c'est 1210 euros par mois. Le loyer, l'alimentation, les loisirs, le transport, la téléphonie, des vêtements, des produits d'hygiène et d'entretien, 1210 euros à trouver chaque mois, c'est le calcul moyen.
Alors c'est une moyenne, parce que si tu es étudiant à Paris, c'est pas la même chose.
C'est le calcul moyen, il y a une pondération.
À Angoulême, forcément.
Il y a une pondération, oui.
Il y a des bourses qui peuvent aider, quels sont les montants de ces bourses?
Il y a 8 échelons de bourses, ça va de 108 euros par mois à presque 600 euros versés sur 10 mois. Les bourses ont été revalorisées de 4% cette année. Si l'étudiant boursier a eu son bac avec mention très bien, il peut aussi cumuler avec une prime annuelle au mérite, 900 euros, pendant 3 ans. Et puis avec la crise, eh bien, le gouvernement a décidé d'une aide exceptionnelle de 100 euros supplémentaires. En proportion, il y a beaucoup plus de boursiers dans les échelons les moins élevés de la grille, 8% seulement dans les échelons les plus hauts.
D'ailleurs, il y a combien d'étudiants boursiers, on sait Marie ?
Alors pour cette année, on ne sait pas encore, hein, ça va s'affiner au fil des semaines. Pour l'année dernière, sur 2021-2022, il y avait 720 000 étudiants boursiers. 40% des étudiants de l'université sont boursiers. En BTS, c'est même un étudiant sur deux.
Et dans les grandes écoles, les classes préparatoires ?
Là, ça baisse. Hein. 27% de boursiers en classe prépa, 22% dans les écoles d'ingénieurs, 12% dans les écoles de commerce.
Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la reproduction est illustrée avec ces statistiques.
Alors qu'il y a aussi des taux de boursiers pour les entrées dans ce genre d'école, mais il faut que les boursiers se présentent. Ça, c'est encore une autre histoire.
Comment ils sont calculés les montants des bourses, justement ?
Alors, c'est sous conditions de ressources. Il y a un barème. Pour cette année, le calcul se fait sur les revenus perçus en 2020, l'avis fiscal de 2021. Alors, c'est soit sur les revenus de l'étudiant s'il est autonome, soit sur ceux de ses parents ou de son tuteur légal. Les revenus pris en compte, vous les trouvez sur la ligne revenu brut global sur l'avis d'imposition. La composition du foyer et la distance aussi qui sépare le domicile familial du lieu d'études, tout ça c'est pris en compte dans le calcul des montants des bourses. Il y a des simulateurs disponibles, notamment sur le site internet service-public.fr.
Est-ce que vous diriez que ce système est efficace ?
On sait très bien que les montants ne sont pas suffisants. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a le problème d'effet de seuil. Et puis, pour être plus ajusté, il faudrait que les bourses soient calculées à partir des revenus de l'année en cours, pas sur une année fiscale antérieure.
Ça veut dire qu'il faut le réformer, le système ?
Oui, et la réforme, eh bien, elle va être lancée ce mois-ci. En tout cas, les discussions, un délégué ministériel va être nommé. Il va mener une concertation, notamment avec les organisations étudiantes. Il faut faire le bilan du système actuel, définir les contours de ce que pourrait être le prochain système, comparé avec ce qui se fait à l'international. Et puis, voilà, il faut que ça puisse vraiment aider à la lutte contre la précarité étudiante. La concertation, dit le ministère de l'Enseignement supérieur, doit permettre d'adopter de premières solutions dès la rentrée universitaire prochaine en 2023.
Les bourses, d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs ?
Oui, alors, le CROUS, le Centre Régional des œuvres universitaires, peut attribuer des aides ponctuelles d'urgence aux étudiants qui traversent une mauvaise passe. Il faut solliciter les CROUS. Les repas dans les restaurants universitaires, ils sont à 1 euro pour les boursiers, 3,30 euros pour ceux qui ne le sont pas. Et si vous n'êtes pas boursier, bien vous pouvez quand même avoir le ticket de rue à 1 euro si vous êtes dans une situation précaire. Là encore, il faut s'adresser au CROUS. Être boursier, ça permet de demander un logement en cité universitaire, moins cher. Mais il y a aussi les APL, les aides au logement, qui ont augmenté de 3,5% en cette rentrée. Les étudiants qui touchent les APL, parce qu'ils ne vivent plus chez leurs parents, ils ont le droit aussi à l'aide exceptionnelle cette année de 100 euros. Et puis, il y a les aides à la mobilité pour étudier loin de chez soi quand on est boursier. 500 euros en une fois pour partir dans une autre académie juste après le bac. 1000 euros au niveau des masters et pour partir à l'étranger, 400 euros par mois. En tout cas, renseignez-vous. Il y a des aides. Il y a un guide de la rentrée que le ministère de l'Enseignement supérieur a publié avec ce à quoi vous avez droit. Le non-recours, le non-recours aux aides étudiantes, il est très fort. Les jeunes ne savent pas toujours ce à quoi ils ont droit. Il faut aller sur le site internet, notamment du ministère de l'Enseignement supérieur.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation, ici RTL, spécialiste aide aussi depuis aujourd'hui.
C'était RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques secondes avec le journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Et s'il faisait son retour cet automne, le port du masque va-t-il redevenir obligatoire en pleine 8e vague ? Le COVARS qui a remplacé le conseil scientifique y réfléchit très sérieusement. Julien Bayou contre-attaque, accusé de violence psychologique contre son ex-compagne par Sandrine Rousseau. Il dénonce des dérives, estime qu'il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme. La cause féministe qui déchire les verts, on en parle après le journal avec la
députée Sabrina Sebaï. Votre chauffe-eau coupée à votre insu grâce au compteur Linky. Ce sera possible dans 15 jours au nom des économies d'énergie. Après le mondial de foot au Qatar, les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite.
Oui, d'hiver, c'est ça qui est tout à fait étonnant.
Et c'est pour ça qu'on en parle à la fin du journal, Pascal.
C'est
et puis
très
votre
étrange.
Rendez-vous culture.
Il y a de la neige en Arabie Saoudite.
Il y a des endroits où il y a un petit peu de montagne, un peu de neige, et ils vont tout aménager. Nicolas Georgerot va tout vous expliquer à la fin du journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi, c'est l'hiver, on parlera col roulé avec Monique Younes, c'est le vêtement à la mode, vous ne l'avez pas raté. La question du jour sur RTL.fr à propos du Covid, justement, portez-vous un masque dans les transports en commun?
Vous me reposez la question?
Bah, c'est celle qu'on pose aux auditeurs, pas souvent.
Bah, pas souvent, parce que c'est vrai que j'ai peu dans les transports en commun. Avouons-le. On en parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On a la parole, 3210 pour dialoguer jusqu'à 14h30. J'ajoute, mangez vos morts, le message lancé par Daniel Obono. Si vous êtes à table, mangez vos morts. Non, ça ne vous s'adresse pas à vous. C'était le tweet de Daniel Obono. Bien évidemment, vous pourrez réagir sur ce sujet et sur les autres.
La météo à la fin du journal met déjà une tendance. Peggy Broche, la douceur.
La douceur. Et du soleil.
Merci beaucoup, Peggy.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Le port du masque va-t-il redevenir obligatoire? Va-t-il falloir recommencer à se couvrir dans les transports, les lieux clos? Alors que la 8e vague de Covid continue de progresser et de remplir les hôpitaux, le COVARS qui a remplacé, on le rappelle, le conseil scientifique...
COVARS, ça ressemble à Covid d'ailleurs. C'est très étrange.
On dirait un virus, effectivement.
Exactement, c'est étrange comme terme.
C'est pas moi qui l'ai choisi, Pascal, donc j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, mais ce COVARS, en tout cas, réfléchit très sérieusement au retour du masque obligatoire, Virginie Garin.
Voilà, à peine entré en fonction, ce nouveau conseil, qu'on va continuer à appeler conseil scientifique, a été saisi par le gouvernement sur cette question. Alors, il est réfléchi pourquoi? Parce que tous les indicateurs sont en hausse. Le taux d'incidence à 460, les passages aux urgences, les hospitalisations, les entrées en soins critiques et même les décès. Il y a 30 morts par jour en ce moment avec Covid. Et le meilleur moyen de freiner la circulation du virus, et même des virus de la grippe aussi, hein, c'est le masque. Et quand on regarde autour de soi, on n'en voit pas beaucoup dans les lieux où les gens sont rapprochés, comme les transports en commun. Au moins que les personnes qui toussent ou qui éternuent le portent, eh bien non. Alors redeviendra-t-il obligatoire et où le conseil scientifique devrait se prononcer dans les jours qui viennent et c'est ensuite le gouvernement qui décidera.
Virginie Garin pour RTL. À propos du gouvernement, notez que François Braun, hein, le ministre de la Santé, sera l'invité de RTL Soir tout à l'heure. Ce sera à 18h15. Il donnera certainement la position gouvernementale sur ce sujet du masque.
Après deux semaines de silence, Julien Bayou lance la riposte.
L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, accusé de violence psychologique contre son ex-compagne, a décidé de se défendre dans les colonnes du journal Le Monde. Et il répond, Marie-Bénédicte Allaire, en taclant sévèrement sa collègue députée Sandrine Rousseau.
Oui, effectivement, Sandrine Rousseau est allée trop loin. Ce sont les mots de Julien Bayou qui ajoute « Il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme », un terme qui se réfère à la traque des communistes dans les années 50 aux États-Unis. Pour Julien Bayou, la démarche de Sandrine Rousseau est un dévoiement du féminisme. Il accuse encore « Le privé ne doit pas être instrumentalisé » et il replace les attaques contre lui dans le contexte de la préparation du Congrès des écologistes à la fin de l'année.
Et du côté de Sandrine Rousseau, comment réagit-on à cette charge?
Eh bien écoutez, l'une de ses proches que j'ai joint tout à l'heure juge inacceptable le terme de maccartisme, une comparaison qui n'a pas lieu d'être selon elle. Mais elle se réjouit que la cellule interne sur les violences sexistes ait été confortée ce week-end par le Conseil fédéral des écolos, un organe de direction élargi, alors que Julien Bayou, lui, récuse cette cellule.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL en direct de l'Assemblée nationale. Pas question de quitter son poste. Éric Dupond-Moretti exclut toute démission au lendemain de la décision de la Cour de justice de la République de le renvoyer en procès pour prise illégale d'intérêt. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur pourvoi en cassation. Idem pour Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, mis en examen lui pour conflit d'intérêt en raison de ses liens familiaux avec des dirigeants de l'armateur MSC. L'Élysée a déjà fait savoir qu'il resterait à son poste.
Tout à fait autre chose. Et si Enedis coupait votre ballon d'eau chaude à distance cet hiver?
À partir du 15 octobre, l'opérateur sera en effet autorisé à utiliser les compteurs connectés Linky pour faire baisser la consommation d'électricité des Français, Hermel Lévy.
Et oui, entre midi et deux, à l'heure où vous nous écoutez, vous êtes très nombreux à utiliser votre four, vos plaques électriques, la lumière, le chauffage et la box allumée. Et comme vous le savez, ça consomme beaucoup. Donc pour éviter la panne, les pouvoirs publics ont demandé à Enedis de désactiver un maximum de ballons d'eau chaude à l'heure du déjeuner. Sont concernés 4 300 000 foyers, ceux qui ont un compteur Linky et qui ont choisi un abonnement heure pleine, heure creuse. Donc si votre cumulus est programmé pour se chauffer la nuit, cela ne va rien changer, mais si vous l'avez programmé pour qu'il chauffe entre midi et deux, il sera automatiquement débranché sans que vous n'ayez rien à faire, ce qui permettra d'économiser l'équivalent de 3,5 réacteurs en production.
Mais cette information m'étonne et m'inquiète, parce que si je suis chez moi et que j'ai envie de prendre une douche, concrètement, comment ça marche, Armel, comment...
Vous aurez toujours de l'eau chaude, hein, puisque ça va chauffer la nuit. Mais l'enclenchement se fait à distance, via Linky. Linky peut envoyer un message pour enclencher et éteindre les appareils aux heures creuses. À l'aide de deux fils pilotes reliés au contacteur, cela enclenche le ballon d'eau chaude ou ça l'éteint. Mais Enedis me dit que ce système n'existe que pour les chauffe-eau. Linky n'est donc pas relié à votre télé ou à votre ordinateur.
En clair, Pascal, vous pouvez vous chauffer avec l'eau du chauffe-eau, mais une fois que vous l'avez vidé, il faudra attendre pour pouvoir recommencer à se doucher avec de l'eau chaude. Merci beaucoup, Armel Lévy. Le Parlement européen donne son feu vert final au chargeur unique pour smartphones, tablettes et autres consoles. Le port de type USB-C devra donc devenir l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'Union européenne.
Trois jours après la fermeture de l'entreprise Camaïeu, les salariés se mobilisent.
Ils sont 2600 à avoir perdu leur emploi avec la liquidation judiciaire du groupe de prêt-à-porter. À l'initiative de la CGT, certains se sont donc réunis devant le siège ce matin à Roubaix, Franck Hanson, pour préparer une action en justice.
Oui, elle ne s'était pas revue depuis l'annonce brutale de la fermeture devant les grilles de l'entrepôt roubaisien, toujours sous le choc. Sandrine et Elisabeth sont décidées à demander des comptes à leurs anciens dirigeants.
Qu'ils assument leurs fautes. On voudrait des explications, le pourquoi du comment. Parce qu'on a bien vu pendant trois jours, les magasins, ils étaient pleins. Donc c'est qu'il y avait des clients, ça marchait. On a juste eu un actionnaire qui n'a pas fait son travail, c'est tout.
Lui, il a été là juste pour empocher l'argent.
Qui paye le mal qu'il a fait. Parce que Camaïeu, c'est une belle marque.
À l'initiative de la CGT, une action va donc être lancée en justice. L'espoir est mince de sauver l'emploi, reconnaît l'avocat Fyodor Rylov, mais au moins, il faudra obtenir des indemnités.
Ces indemnités ne vont pas remplacer le travail que vous avez perdu, mais ce sont des indemnités dont vous allez avoir besoin parce que le plan social que va élaborer le liquidateur dans le cadre de votre licenciement, c'est un plan social qui sera inévitablement au ras des pâquerettes.
À l'issue de cette assemblée générale, une poignée de salariés a forcé les grilles du siège pour pénétrer à l'intérieur. Pas de casse, mais toujours une grosse amertume chez ces nouveaux licenciés. D'autres actions sont prévues prochainement.
Le reportage de Franck Hanson à Roubaix, dans le Nord, pour RTL. En Russie, plus de 200 000 personnes ont été mobilisées dans l'armée en deux semaines depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine le 21 septembre. Chiffre communiqué par l'armée russe.
Toujours à l'étranger, les États-Unis veulent répondre de façon robuste à la Corée du Nord après le tir de missile de Pyongyang.
Un missile balistique, oui, qui a survolé le Japon la nuit dernière. Le système d'alerte a été activé. La population a même dû se mettre à l'abri, Philippe Dova.
Oui, message d'alerte sur la chaîne NHK, avis d'évacuation pour les habitants, suspension des lignes de train à grande vitesse dans les régions d'Hokkaido et d'Aomori. C'est la première fois depuis 2017 que la J-Alert est déclenchée dans l'archipel nippon. Pas de quoi s'affoler cependant pour David Michaud, photographe installé depuis 15 ans au Japon.
C'est un peu un classique, hein, puisque c'est pas la première fois qu'il y en a un. Et finalement, ça n'a pas fait plus à part une alerte sur le journal télé du matin. C'est tout ce que ça a fait et les gens ont continué leur vie normalement, voilà, sans plus. C'est des tests.
Un test, mais c'est la cinquième série de tirs de Pyongyang en 10 jours. Certainement la provocation de trop, condamnée fermement par le Premier ministre Kishida et qualifiée d'acte imprudent également par le président sud-coréen. Alors ce nouveau tir et les précédents sont certainement la réponse de la Corée du Nord aux exercices militaires américains, sud-coréens et japonais anti-sous-marins effectués pour la première fois depuis 5 ans il y a 3 jours et à la visite de Kamala Harris la semaine dernière dans la région.
Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon.
L'Arabie saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. On en parlait tout à l'heure et ça provoquait aussi notre étonnement.
Effectivement, en pleine polémique sur le mondial de foot au Qatar, cette désignation peut surprendre hein, Nicolas Georgerot, d'autant que l'Arabie saoudite n'est pas connue, parce qu'elle le disait, pour ses sommets enneigés.
Non, c'est sûr, et c'est le projet fou de l'Arabie Saoudite, un projet global à 500 milliards de dollars avec la construction de trois pôles d'habitation futuristes à horizon 2030-2040, baptisés Neom. L'un de ces trois pôles sera situé dans le nord du pays, à 50 km du golfe d'Aqaba. Un village baptisé Trojena, développé sur plusieurs altitudes, entre 1500 et 2600 mètres. Les autorités y annoncent une température inférieure à 0 degré, avec de la neige, 30 km de pistes prévues, avec également un lac artificiel, un observatoire. Tout doit être terminé pour 2026. L'Arabie Saoudite, lancée comme le Qatar, mais plus récemment, dans l'organisation de compétitions sportives, espère faire de ces Jeux asiatiques d'hiver une vitrine de son projet immobilier totalement dingue et démesuré.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL, plus près de nous. Le sport, c'est aussi le foot et la Ligue des Champions ce soir avec l'OM. Les Marseillais reçoivent le Sporting Portugal à huis clos à 18h45. L'OM qui court toujours après un premier succès européen cette saison. La météo avec vous, Peggy Broche. On vous retrouve pour un après-midi sous le soleil et la douceur.
Exactement, Céline. C'est vrai qu'il fait très beau sur l'ensemble du pays. Alors, il y a juste localement des grisailles persistantes vers le nord-est, le centre-est ou encore le Pays basque. Et puis, ça reste nuageux entre la Bretagne, la Normandie et le nord. Mais ailleurs, plein soleil avec des températures qui remontent par rapport à ce matin. On est souvent au-dessus des normales de saison, de 18 à 22 au nord, 22 à 26 dans le sud et même 27 dans le sud-ouest.
Merci, Peggy.
Tempête chez les Verts et ce n'est pas un verre d'eau. On est avec la députée d'Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Il ne faut pas confondre maccartisme et féminisme. La première réaction ce matin dans le journal Le Monde de Julien Bayou.
Contre-attaque effectivement ce matin de Julien Bayou, accusé de violence psychologique sur son ex-compagne par Sandrine Rousseau. Julien Bayou qui répond à sa collègue députée. Il lui reproche d'être allé trop loin. L'affaire déchire le parti. Et pour en parler, nous sommes avec une autre députée Europe Écologie Les Verts, Sabrina Sebaï. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez été porte-parole de Yannick Jadot durant la présidentielle. Aujourd'hui, on l'a dit, votre parti se déchire. Est-ce qu'il y a vraiment, comme le dit Julien Bayou, une confusion entre féminisme et maccartisme, une chasse aux sorcières ?
Ah bah écoutez, moi j'ai lu l'article comme vous. Je pense que, en tout cas, sur les mots qu'il a choisis, je pense qu'il faudra lui demander directement pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire cette comparaison. Moi, je trouve que c'est un peu excessif, ces éléments de comparaison. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, si vous voulez, nous, le groupe est en fonctionnement normal aujourd'hui avec le groupe des parlementaires. Et la question du parti, il faut qu'elle se traite au niveau du parti.
Est-ce que vous validez ce qu'avait fait Sandrine Rousseau, à savoir parler dans l'émission C'est à vous de Julien Bayou, de rapporter que sa compagne avait fait une tentative de suicide et de jeter son nom en pâture à l'opinion publique ?
Alors, je pense que c'est pas à moi de valider ou pas les expressions des uns et des autres. En l'occurrence, Sandrine Rousseau est invitée à une émission de télévision où on lui pose la question suite à une interpellation sur les réseaux sociaux, dont Twitter notamment. Bien sûr, mais en l'occurrence, vous me demandez si je valide ou pas.
Alors, moi, je vous dis qu'elle répond à la question. Je vais dire ça différemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous approuvez ?
Alors, elle transmet un témoignage qu'elle a obtenu. Je n'aurais pas fait la même chose. Mais elle s'exprime en disant qu'elle a eu l'accord de la personne pour pouvoir le dire en direct à la télévision.
Est-ce que vous trouvez que c'est convenable de jeter, je le répète en pâture, le nom de M. Bayou, alors que le public n'était pas au courant de cela et qu'il n'y a pas de choses répréhensibles sur le plan pénal ? C'est ce qu'elle a dit. C'est ça ma question.
Oui, j'ai bien compris votre question. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'elle, quand elle répond à la question, elle, dans sa manière de le faire, elle ne jette pas en pâture. On lui pose une question par rapport à une situation où elle évoque le cas d'une victime qui s'est exprimée et qui lui a donné l'autorisation de parler de son histoire. Donc maintenant, effectivement, la personne qui est accusée dans le message et dans ce que la personne décrit, c'est Julien Bayou. Donc elle donne le nom. Mais est-ce que c'était le jeter en pâture ? Moi, je ne pense pas que ça soit l'objectif, en tout cas, lorsque Sandrine Rousseau répond à la question.
Vous êtes membre d'un parti qui se veut en pointe sur ces questions de violences faites aux femmes. Ces questions, on a le sentiment qu'elles déchirent aujourd'hui votre parti. Comment on en est arrivé là ?
En réalité, c'est pas nouveau la question de la cellule notamment, puisqu'aujourd'hui c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que oui, le parti a toujours été très en avance sur ces questions-là. On a toujours pris à bras le corps la question du féminisme et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, d'où la création de cette cellule. Mais vous savez, il y a déjà ça, de ça quelques mois, déjà en Conseil fédéral, on réfléchissait à externaliser ou pas la cellule parce qu'il y avait déjà des questionnements sur son fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en février prochain, on va faire un bilan du fonctionnement de la cellule pour voir effectivement si on la garde en interne ou si on n'externalise pas tous les dossiers qui sont suivis à l'intérieur de cette cellule. Donc c'est pas nouveau en fait ce débat qui traverse le parti. Aujourd'hui, ça a une caisse de résonance beaucoup plus importante parce que ça se percute avec d'autres affaires et d'autres... Enfin voilà, vous voyez bien, ça démarre par l'affaire Quatennens. Donc il y a d'autres affaires qui font que ça a une caisse de résonance beaucoup plus importante. Mais en tout cas, chez les écologistes, il y a toujours eu un débat sur comment est-ce qu'on traite de manière efficace la question des violences sexistes et sexuelles. Et en réalité, aujourd'hui, si ces cellules existent et si en tout cas on a dû les mettre en place, c'est parce que à la base, il y a une faille de notre système de justice. Sinon, nous n'aurions pas eu besoin de mettre en place des dispositifs en parallèle pour pouvoir répondre à l'attente des femmes qui sont
Madame
victimes aujourd'hui.
Madame Sibeï, vous étiez en porte-parole de Yannick Jadot durant la campagne présidentielle. On ne peut pas dire que Sandrine Rousseau vous ait facilité la tâche et même souvent elle vous a savonné la planche, disons-le, comme si elle n'acceptait pas que Monsieur Jadot ait été choisi à la primaire. Est-ce que vous diriez que Madame Rousseau a un souci avec ses compagnons dans votre mouvement ?
Alors, je dirais pas qu'elle a un souci. Je pense que Sandrine Rousseau a sa propre manière d'exprimer les choses et sa propre expression. Donc, aujourd'hui, elle a une manière d'apporter les débats dans la société qui est différente de la plupart des personnes qui s'expriment, que ce soit chez les écologistes ou dans d'autres partis par ailleurs. Oui, mais vous voyez, la réalité, c'est que quand on prend, par exemple, tous les débats qui ont traversé depuis, ne serait-ce que depuis la rentrée, l'histoire du barbecue, par exemple, où finalement, ça nous permet de parler de la viande, c'est une manière différente d'aborder les questions de société. Elles ne sont pas toujours en ligne ou en accord avec ce que portent certaines personnes chez les écologistes, mais vous avouerez quand même que chez les écologistes, il y a toujours eu des voix qui s'expriment de manière différente. Ce n'est pas
ça
nouveau.
Ça ne vous a pas
on
échappé également.
Volontiers.
Merci Madame Sibeï. Il faut savoir décoder ce que vous dites en sous-texte, mais pour ceux qui savent décoder, votre intervention est intéressante. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancienne porte-parole de Yannick Jadot durant la campagne électorale. Est-ce que vous avez votre col roulé, Monique Younès ?
Mais il ne fait pas encore très froid.
Ah bah non, le président de la République hier avait son col roulé. Moi, je pense qu'il faut mettre des cols roulés. Ça y est.
Mais je vais en acheter un tout de suite.
Et passe montagne pour cet hiver. A tout de suite, on va parler avec vous du col roulé.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle de mode avec vous, Monique.
Bonjour.
Bah, rebonjour. Mais vous n'avez pas de col roulé. Donc
Non, toujours en pointe. Mais elle ne pouvait pas en passer à côté de ce phénomène de l'automne, vous l'avez dit, celui dont on parle partout. Jusqu'au sommet de l'État, Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé, en portait un hier encore, le col roulé, évidemment.
Il était fin, d'ailleurs. C'était un col roulé
fin parce
peu
qu'il
épais.
Était sous une veste.
Oui.
Eh oui, donc faut pas en mettre un trop épais sous une veste parce que sinon on a l'air tout engoncé.
La veste ne rentre plus.
Exactement. Donc revenons au cœur du sujet, Monique, si je puis dire. Après cette publicité gouvernementale qui dure depuis quelques jours maintenant, est-ce que les ventes de cols roulés ont été dopées ?
Alors, pas encore. Il y a aujourd'hui un léger frémissement selon les grands magasins et les boutiques que j'ai appelées hier. Mais tous parient sur un boom du col roulé. D'ailleurs, si les hommes politiques ne portent que des couleurs sobres, la mode est aux couleurs pétaradante, quel que soit le modèle du col roulé, qu'il soit ample, près du corps, simple ou torsadé. Alors, soit vous choisissez de jouer les contrastes, vous portez un pull col roulé sur un costume sombre, le pull est coloré, ou bien vous choisissez le total look, pull, veste et pantalon de la même couleur. La laine mérinos étant la plus thermorégulatrice, mais ce n'est pas la plus à la mode, m'a dit Vincent Grégoire du bureau de tendance Nelly Rodi.
Privilégier les matières douces, quitte à être dans l'austérité, autant se faire plaisir, quoi. Des cachemires, de l'angora, du mohair, même si ce n'est pas très politiquement correct. Des matières extrêmement sensuelles et très gourmandes.
Oui, après Monique, on n'attend pas des politiques qui portent non plus des pulls en cachemire ou en mohair.
Oui, mais c'est très
déjà,
cher, surtout,
déjà,
un pull en cachemire.
Ben oui, en alpaga, je ne vous dis pas. Je n'ose même pas le dire.
Mais c'est combien, par exemple, un pull dans la...
en cachemire ou en alpaga le prix.
Plus de 1000 euros quand même.
Ah, en cachemire, on peut trouver à moins de 1000 euros quand même, Monique.
En cachemire, tombé du camion, bien sûr.
Moi, je vous parle du cachemire du pauvre, Monique.
Mais voilà, excusez-moi, je ne voulais pas le dire. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le col roulé est devenu un signe d'austérité, mais ça n'a pas toujours rimé avec austérité chez les politiques. Pour paraître cool et détendu, souvenez-vous, Georges Pompidou posé en fumant nonchalamment sa cigarette en col roulé blanc chiquissime. François Mitterrand se promenait dans son domaine de Latché en col roulé couleur café complètement démodé. Et quand Nicolas Sarkozy voulait paraître décontracté, hop, il portait son col roulé noir. Mais le seul homme politique français qu'on a tous oublié maintenant, mais qui ne lâchait pas son col roulé rouge, c'est René Dumont. Bravo.
Le premier candidat à
s'être présenté sous l'étiquette écologiste à une élection présidentielle, et c'était évidemment en 74.
Le col roulé non genré, a priori.
Aujourd'hui,
vous rendez compte comment on parle aujourd'hui, non genré.
Mais oui, surtout en fait, non genré.
Moi-même, je m'étonne.
Pourquoi ?
Non mais non-genré, on ne disait pas cette expression
hommes,
il y a quelques
femmes,
années.
Les trans, tout le monde porte un col roulé, Pascal, aujourd'hui. Certes. Et ça n'a pas été le cas au début, parce que vous savez, le col roulé était effectivement pour les hommes...
On disait unisexe, jadis.
Jadis. Aujourd'hui, il y a plusieurs sexes. Il y a des non-sexés, si on veut dire. D'accord ? Donc... c'est une éponge à signifiant, ce col roulé. Parce qu'au début, on croyait que c'était un vêtement de gauche, sans doute, parce que l'histoire du col roulé est liée à la classe ouvrière. C'était un vrai vêtement pratique, porté par les ouvriers, les pêcheurs, les marins, bref, tous ceux qui travaillaient à l'extérieur et qui avaient besoin de se protéger du froid. Le col roulé leur permettait de se passer d'une écharpe. Et le marin, qui a le mieux porté le col roulé ?
C'est Cousteau.
Bravo. Mais bravo, il le portait non seulement blanc en mer, mais en ville. Il avait l'art d'associer un costume blanc avec un col roulé vert, d'avoir des fois le costume et le pull de la même couleur dans les années 70. Et puis, les intellectuels de gauche avaient le col roulé comme costume, imaginez-vous, de Foucault à Juliette Gréco. Ils avaient tous le col roulé noir et ils se retrouvaient où ?
À Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après.
Alors, le col roulé, je vous disais que c'était une éponge à signifiant. Il est aussi transgressif, par exemple, quand les Black Panthers en font un des éléments de leur uniforme. Il est sexy quand il est porté par une Marilyn Monroe sans soutien-gorge, par une Sophia Loren ou même par une Audrey Hepburn dans Drôle de frimousse.
Bonjour Paris.
Le col roulé aussi peut être viril. Pascal, Steve McQueen dans Bullitt ou tous les James Bond qui ont porté les cols roulés moulants à même le corps. Daniel Craig dans Spectre était désirable à souhait. Il a été pop aussi, le col roulé des Beatles, à Mick Jagger en passant par Andy Warhol. Le col roulé est aussi intergénérationnel, avec cette particularité qu'il vieillit les jeunes et rajeunit les vieux. Il coûte moins cher qu'une chirurgie esthétique du cou.
Pourquoi il rajeunit les vieux, le col roulé ?
Parce qu'il cache les fanions qui commencent à flotter sous le menton, Pascal. Regardez Karl Lagerfeld.
Oui.
Il ne sortait jamais soit son col roulé, soit ses hautes... Ses
chemises hautes.
Voilà, il est kitschissime quand il est porté par les Deschiens ou Philippe Catherine. Mais l'acteur qui me fait craquer en col roulé, c'est Marcello Mastroianni dans le film Dolce Vita.
Bien sûr, mais là il est déjà 13h, donc j'ai peur qu'on aille jusqu'à 14h30 avec le col roulé.
Non, mais dites-moi, vous savez comment on appelle un col roulé en Italie ?
Eh bien, on le dira après la pub.
Dolce Vita.
C'est parfait. Merci Monique, merci beaucoup. Le col roulé, tout savoir, l'histoire du col roulé, c'était avec Monique Younes. À tout de suite.
RTL Midi.